Eh bien, chers amis, en ce matin du 23 novembre 1991, nous entrons donc dans le sujet annoncé, le don de prophétie exercé en accord avec la foi. C'est un texte qui se trouve dans le chapitre 12 des Romains, le verset 6e, et qui sera, Dieu voulant, l'objet plus particulièrement de notre étude de cet après-midi. Ce matin, donc, on vous a proposé comme lecture le chapitre 12e de la première épître aux Corinthiens, qui va nous servir de toile de fond pour notre sujet. Ce chapitre qui nous mentionne plusieurs dons spirituels, parmi lesquels nous trouvons celui de la prophétie, qui est donc mentionné en Romains 12. Ce texte, comme je l'ai dit, que nous étudierons plus spécialement cet après-midi, mais qui nous a donné le sujet de notre troisième retraite de l'année. Et là, je voudrais rappeler pour ceux qui n'étaient pas là que la première de ces retraites, qui a eu lieu en février, avait pour thème la parole prophétique ou une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et là, nous avions déjà souligné qu'aucune prophétie de l'Écriture ne pouvait être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme, disons-nous, qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous disions qu'une prophétie n'était donc pas nécessairement une prédiction concernant l'avenir, mais une parole qui sort de la bouche de Dieu et qui s'applique aussi bien au temps présent qu'à l'avenir. C'est une parole qui nous est donnée pour notre édification. Ce n'est jamais une parole qui peut ajouter à l'Écriture sainte. Car l'Écriture est complète et on ne peut rien ajouter ni rien retrancher à l'Écriture. Ni par le don de prophétie, ou par un don de langue quelconque. Il est bien entendu que la révélation, nous l'avons dans la parole, et que nous ne pouvons rien y ajouter et rien retrancher. Ça doit être extrêmement clair pour vous. Il ne peut pas y avoir de révélation nouvelle. Il peut y avoir plus de lumière sur des vérités qui se trouve dans l'Écriture. C'est pourquoi on doit toujours contrôler ce qu'on appelle prophétie, ou même, si vous prétendez avoir une langue, on doit pouvoir contrôler si c'est en accord avec l'Écriture. Parce que des manifestations spirituelles, on peut en avoir de toutes les sortes aujourd'hui, et c'est pourquoi il nous faut avoir avant tout un discernement spirituel pour savoir si notre inspiration vient de Dieu ou des hommes. Et vous savez que l'inspiration qui vient des hommes, le Seigneur la qualifie comme venant de qui? De Satan. L'homme qui a parlé au nom de l'Esprit de Dieu, c'est l'apôtre Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu n'as pas trouvé ça tout seul. Façon de parler, n'est-ce pas? Il lui dit, Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Mais un moment après, le même homme prend Jésus à part, parce que Jésus leur a révélé qu'il allait à Jérusalem, qu'il allait souffrir, qu'il serait rejeté, qu'on le fouetterait et qu'on le crucifierait. Alors le cher Pierre pense que le Seigneur fait une petite crise de dépression. Et il veut l'encourager, n'est-ce pas? Très psychologue, et il veut s'occuper de l'état d'âme de son Seigneur. Et puis il lui dit, Seigneur, que cela ne t'arrive. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais des hommes. Donc, le même homme peut être le canal ou d'une révélation divine, d'une parole qui vient de Dieu, et puis, en même temps, quand il se laisse aller à ses sentiments, à ce qu'il ressent, à ses impressions, ou à ses espérances, parce qu'ils espéraient que c'était lui qui devait sauver Israël dans le moment même, eh bien, le Seigneur lui dit, ses pensées sont aux choses des hommes. Donc, il y a deux sources d'inspiration, ou le Seigneur, ou les hommes, mais qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Et vous savez, Satan est un homme très religieux. Oh, pour être religieux, il l'est. Croyez-le bien. Et c'est pourquoi nous devons veiller à ses ruses, parce qu'il essaye toujours d'imiter ce qui vient de Dieu, mais il l'imite très mal. Alors, nous allons souligner encore ce que nous disions dans notre première rencontre de février, que c'est toute l'écriture qui est inspirée de Dieu et que la prophétie doit être conforme à toute la parole de Dieu. En un mot, à la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est ce que nous avons dans Jude au verset 3e. On ne peut rien ajouter à l'écriture, ni rien retrancher. Et je vous le disais, vous avez cela au chapitre 4 du Deutéronome, déjà, donc au début de l'écriture. De ne rien ajouter, verset 2e, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Dans le milieu de l'écriture, c'est-à-dire dans les proverbes, vous avez un autre texte qui confirme la même chose et qui dit « N'ajoute pas rien à tes paroles de peur que tu ne sois trouvé menteur. » C'est verset 6 du chapitre 30 des Proverbes. « Toute parole de Dieu est éprouvée, verset 5, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. » Et alors, à la fin du livre de l'Apocalypse, vous avez cette déclaration, Apocalypse 22, verset 18, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrite dans ce livre. » Ça, c'est très clair que la parole de Dieu, nous l'avons d'une façon complète dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, nous avons surtout souligné dans notre première étude que nous ne pouvions pas faire d'un texte de l'Écriture ou d'une prophétie de l'Écriture une interprétation particulière. Il faut toujours remettre le texte dans le contexte et il faut que notre interprétation soit en harmonie, en accord avec la Bible tout entière. D'où la nécessité de connaître non pas seulement des passages bibliques qui vous encouragent dans un moment difficile, mais il vous faut avoir une connaissance globale de l'Écriture. Je ne vais pas vous faire passer un examen et vous demander qui est-ce qui a lu la Bible depuis la première page à la dernière page. C'est comme cela qu'on doit lire la parole de Dieu quand on veut vraiment faire des progrès. Vous n'allez pas tout comprendre, mais vous continuez, même ce que vous ne comprenez pas, eh bien, vous attendez que le Seigneur vous donne un peu plus de lumière, puis vous lisez plus loin, et puis tout à coup, le verset que vous n'aviez pas compris est éclairé par un autre verset ou par un autre chapitre. Puis vous vous dites, ah, mais maintenant je comprends. Mais vous devez lire en suivant, sinon vous ne ferez aucun progrès. Vous serez de ces chrétiens qui piquent des versets bibliques quand ça ne va pas, hein, parce que vous croyez quand même que c'est la parole de Dieu, et puis vous cherchez à trouver une consolation. Mais vous n'aurez jamais une idée vraiment du plan de Dieu, du dessein de Dieu, ce qui nous mène à l'adoration, ce qui nous mène à la louange constante. Parce que plus on connaît l'Écriture, plus on entre dans les pensées de Dieu, ces pensées qui sont insondables, ces voies qui sont introuvables, mais plus on est émerveillé, plus on dit, c'est une connaissance qui me dépasse. Et alors, quand on est dépassé, qu'est-ce qu'on fait? On adore. On n'a plus de mots. On loue. Comprenez-vous? Voilà ce que je voulais vous rappeler. Pour vous qui n'y étiez pas, eh bien, vous pouvez obtenir les cassettes de cette première retraite de 91. Il y a 6 cassettes. Ce n'est pas parce que nous désirons les vendre. D'abord, ce n'est pas nous qui les vendons. Elles sont à Bethel. Bon. Maintenant, dans notre deuxième retrait, qui eut lieu en septembre, notre thème était « Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Apocalypse 10, 19, verset 10. Et cette parole a été prononcé par l'ange qui expliquait à Jean, à Patmos, les vérités révélées et dévoilées dans le livre de l'Apocalypse, qui est la révélation, le dévoilement de la prophétie. Et nous avons vu que le témoignage de Jésus se trouvait aussi bien dans l'Ancien Testament que dans les écrits du Nouveau Testament, d'où la nécessité de lire l'Ancien Testament. Est-ce que vous lisez l'Ancien Testament? Il y a des richesses infinies dans les écrits de l'Ancien Testament. Alors, nous devons lire aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, qu'il s'agisse des évangiles, des épîtres, que les disciples de Jésus nous ont écrit, ou de l'Apocalypse. Alors, nous avons souligné aussi que le meilleur moyen pour rendre brûlant un cœur, c'est de laisser Jésus nous expliquer lui-même les Écritures, et nous expliquer dans les Écritures les choses qui le concernent. Luc, verset 24, chapitre 24, verset 32e. Là aussi, il reste 6 cassettes de cette retraite. C'était un thème, celui-là, que les Italiens m'ont demandé l'année dernière. C'était la question qu'ils posaient, ils voulaient que je parle pendant toute une semaine. Comment nos cœurs peuvent-ils brûler d'amour pour Jésus? Alors je ne m'en vais pas chercher midi à 14h. Je cherche dans l'Écriture des cœurs qui ont brûlé pour Jésus. Et qu'est-ce qui a fait brûler ces cœurs pour Jésus? C'est d'entendre Jésus sur le chemin d'Emmaüs, Jésus qu'ils n'ont pas reconnu, mais qui était ressuscité, qui marchait avec eux, leur expliquer dans toutes les Écritures, dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes, les choses qui le concernaient. Et quand Jésus, qui ne veut jamais s'imposer, a fait mine d'aller plus loin qu'Emmaüs, ils l'ont retenu. Demeure avec nous, Seigneur, le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il est dit, il entra pour rester avec eux. Et c'est dans la fraction du pain que tout à coup, les deux disciples, qui étaient découragés, ont reconnu le Seigneur, et il disparaît à leurs yeux. Alors, ils retournent à Jérusalem, et qu'est-ce qu'ils disent? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand ils nous expliquaient les Écritures? Et il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Il n'y avait pas encore les Évangiles, il n'y avait pas les écrits apostoliques, mais il y avait seulement l'Ancien Testament. Mais Jésus avait fait brûler leur cœur. De sorte que l'esprit de la prophétie, nous l'avons vu, c'est vraiment le témoignage de Jésus. Le sens profond de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc, si vous voulez connaître la prophétie, eh bien, nourrissez-vous du témoignage de Jésus. Alors, je vous rappelle cela au début de cette troisième retraite pour vous montrer qu'il existe un lien manifeste entre les trois thèmes de cette année. Et comme je le fais d'habitude, j'aime à vous préciser le sens de chaque mot dont est formé notre thème, non pas parce que je crois que il y a des ignorants parmi nous, mais parce qu'on a toujours besoin de se rafraîchir la mémoire au sujet du sens des mots que nous employons. La prophétie dans l'Écriture, c'est donc une révélation dont la source est en Dieu lui-même et dont l'objet est essentiellement la personne de Christ et non pas des événements futurs. C'est la personne de Christ. Et quand vous lisez l'Apocalypse, si c'est simplement pour savoir ce qui va arriver, je vous mets en garde parce que vous tomberez dans toute espèce de contradiction. Mais si vous lisez l'Apocalypse en demandant à Dieu de vous révéler Jésus-Christ, alors dans l'Apocalypse, vous trouverez Jésus-Christ, une personne, et c'est par lui que vous saurez ce qui va arriver dans ce monde. Est-ce que ce sont les hommes qui vont remettre le monde sur pied, ou est-ce que c'est Jésus-Christ? C'est ça qu'il nous faut savoir. Eh bien, quand vous lisez l'Apocalypse, vous apprenez que c'est bien Jésus-Christ lui-même qui est la solution pour le monde. Mais je souligne que c'est sa personne que vous devez rechercher dans toutes les Écritures, aussi bien dans la Genèse que dans l'Apocalypse. L'esprit de la prophétie, disions-nous en septembre, c'est le sens profond, c'est la substance de la prophétie, c'est la faculté de comprendre, de connaître, c'est l'intelligence de saisir, avoir l'esprit de la prophétie, eh bien, c'est avoir cette intelligence qui nous permet de saisir, ou le souffle qui doit nous pénétrer. un homme prophétique, c'est pas un homme qui annonce l'avenir, mais c'est un homme qui est animé du souffle de Dieu. Ce souffle qu'il nous donne pour respirer, il nous le donne aussi pour comprendre, pour saisir ses pensées, pour entrer dans son intimité à lui. Alors on n'est plus bouleversé, on n'est plus étonné. Bien sûr, on reste charnel, on a des moments difficiles, mais on ne peut plus rester abattu, on est ressaisi par le souffle de l'Esprit. Et la prophétie, pour nous, elle est toujours actuelle. J'ai expliqué aussi le mot témoignage. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Quant au témoignage, eh bien, nous vous rappelions en septembre, qu'est-ce que c'est qu'un témoignage? C'est le rapport qui est fait par quelqu'un de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Alors, qui est-ce qui a été le témoin de Dieu par excellence sur la terre? C'est Jésus. Il est le témoin fidèle et véritable. Et lui peut nous parler de ce qu'il a vu auprès du Père, n'est-ce pas? Et de ce qu'il a entendu. Et justement, un témoin, il ne parle pas de lui-même. Et Jésus ne parlait pas de lui-même. Il parlait de qui? De son Père. Ce que je vous enseigne, c'est ce que j'ai entendu de mon Père. Ce que je fais, c'est ce que j'ai vu faire par mon Père. Il ne disait pas que lui inventait quelque chose. Il faisait ce qu'il avait vu faire par son Père. Mais il le faisait comme son Père l'accomplissait. Et il disait les choses qu'il avait entendues comme le Père les lui avait dites. Voilà ce que nous devons savoir du témoin fidèle. Alors, si nous voulons être témoins du Christ, nous devons donc avoir une intimité de plus en plus grande avec sa personne et agir dans ce monde comme lui agissait et parler comme lui parlait. Alors aujourd'hui, les mots dont nous devons bien comprendre le sens, ce sont lesquels, d'après le titre? Le don de prophétie exercé en accord avec la foi. Donc, il y a le mot don. Prophétie, on en a déjà parlé, ce qu'est la prophétie, mais le mot don. Et puis, il y a le mot foi. En accord avec la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, disons, qu'est-ce que c'est qu'un don? Vous le savez, hein? C'est quelque chose que vous méritez? Pas nécessairement, hein? C'est un cadeau. Un don, c'est un cadeau. Il y a des jeunes parmi nous. Et j'essaye aussi d'être seul pour que nos jeunes puissent comprendre et prendre le goût de la parole. C'est un cadeau. C'est un présent. C'est l'action d'abandonner gratuitement à quelqu'un la propriété et la jouissance de quelque chose. Quand vous avez reçu un don, il est à vous et il vous l'est donné pour que vous puissiez l'utiliser, pour que vous puissiez en jouir, comprenez-vous? Mais pas pour que vous puissiez vous glorifier, mais pour que vous puissiez en jouir. C'est vraiment une faveur, c'est un avantage. On peut dire aussi qu'un don, c'est une aptitude, une capacité, un art, une habileté, une qualité, un talent que l'on a reçu. Car si on a quelques talents sur un pont ou sur un autre, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Même si vous dites, mais ça c'est inné chez moi, bien oui, il y a des dons naturels. Mais ce que je voudrais tout de suite vous rappeler, c'est que les manifestations spirituelles dont il est question, ce ne sont pas des dons naturels sublimés, ce sont des dons surnaturels. Mais ça, on l'a complètement oublié. Et alors, on vit dans la médiocrité, on vit dans la pauvreté, parce qu'on pense que ces manifestations spirituelles, eh bien, ce sont, oui, des dons naturels, mais qui sont sublimés. Or, il n'y a jamais de sublimation dans l'Écriture. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça. La crucifixion. On vous parle toujours de dépassement. Je ne trouve pas ça dans l'Écriture. Je trouve, au lieu du dépassement, quoi ? Le renoncement. Mais ça, on ne l'aime pas. Et toute une certaine psychologie qui entre à flot dans nos églises, même évangéliques, eh bien, vous parle constamment de ce dépassement, cette confiance en soi qu'on doit avoir et tout ce que vous voulez y ajouter. Or, ce n'est pas de cela qu'il est question dans l'Écriture. Il est question de savoir renoncer à soi. Et quand on a renoncé, on n'a plus rien. Et alors, eh bien, on s'attend à Dieu. On s'attend à lui. On ouvre les deux mains vers lui. On crie notre besoin, comme le cerf brame après les courants d'eau. Et on s'attend à ce que le ciel nous réponde. Et l'on voit ses réponses. Et ce qui nous renouvelle, je dirais, psychiquement, physiquement, c'est justement cette confiance éperdue que l'on a dans l'intervention du Seigneur. On ne lui demande pas, fais ceci, fais cela, on ne lui demande pas d'opérer des miracles, mais on s'attend à ce qu'il nous aide, à ce qu'il nous dirige, à ce qu'il nous conduise. On n'est jamais abandonné et vous devez retrancher de votre vocabulaire cette expression que vous avez dans des moments de défaillance. Vous dites, le Seigneur me cache sa face. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur ne cache jamais sa face. Ne vous cache jamais sa face. Car il est dit que Dieu regarde toujours la face de son loin de son Fils. Or, si vous êtes dans le Fils, Dieu vous regarde toujours. Mais si vous n'êtes pas dans le Fils, si vous êtes en vous-même, eh bien, vous n'avez pas confiance que le Seigneur vous regarde. Et pourtant, il vous regarde. Mais, pour être conscient que le Seigneur vous regarde, regardez Jésus. Le Père vous voit dans la face de son loin. Le Père vous voit dans les perfections de Christ. C'est que vous avez oublié ce que vous êtes devenu en lui. Et c'est ça qui vous déprime. Mais quand vous reprenez conscience de ce que vous êtes en lui, mort dans sa mort, ressuscité dans sa résurrection, et parce que Jésus vit, vous aussi vous vibrez. Voilà ce qui est vrai. Non pas ce que vous ressentez, mais ce que la parole de Dieu vous déclare. Quant au sens du mot foi, qu'emploie le texte des Romains, nous l'expliquerons plus exactement cet après-midi. La foi, c'est pas ici la foi qui sauve, simplement. C'est la foi considérée comme l'ensemble des vérités du christianisme. Il y a plusieurs sens au mot foi, et c'est le contexte qui détermine le sens que nous devons donner à un mot. Alors, pour l'instant, nous en revenons à notre lecture de ce matin, ce chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, avec les questions suggérées pour vous aider à méditer sur le texte que vous aviez à lire. Alors, Comment est-ce que se sont passés vos ateliers? Bien? Bon. Alors, je ne m'en vais pas vous faire faire des rapports détaillés parce que vous allez vous répéter, hein, mais je dirais, le groupe 1, qu'a répondu le groupe 1 à la première question? Qu'est-ce que était cette question? Alors, nous lisons. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Qu'a répondu le premier groupe? Un croyant peut-il excuser son ignorance au sujet des manifestations spirituelles?
Non.
Non. Tous les groupes ont répondu non. Non. C'est clair, hein?
Oui, on a répondu non.
Oui, on a répondu non. Donc, vous voyez pourquoi l'apôtre a écrit ce chapitre, hein? Il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance en ce qui concerne les dons ou les manifestations spirituelles. Et alors, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est maudit, hein? Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Mais attention là, hein? C'est facile de dire « Seigneur, Seigneur ». Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, il doit y avoir une signification très particulière dans cette confession. Jésus est le Seigneur. Pour pouvoir dire cela, il faut vraiment le Saint-Esprit. Jésus est le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai accepté la seigneurie du Christ dans ma vie. Ce n'est plus moi qui me conduis, c'est lui. Parce que tout le monde peut dire Jésus est le Seigneur. Comprenez-vous? Mais ce n'est pas cela que Paul veut dire. Que tous ceux qui disent que Jésus est le Seigneur, qu'ils parlent par le Saint-Esprit, non. Parce que pour pouvoir dire Jésus est le Seigneur, il a fallu la même opération quand Marie, la mère bénie de Jésus, qui, en présence d'une chose incroyable, s'écrie « Comment ces choses peuvent-elles se faire ?» Elle ne peut pas concevoir une chose pareille. Qu'elle deviendra la mère de Jésus, la mère de cet enfant qui lui est annoncé, ce saint enfant qui naîtra de toi. Elle dit, mais moi je ne connais pas d'homme, alors comment ces choses peuvent-elles se faire? Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Donc il y aura une opération du Saint-Esprit, comme nous vous l'avons dit hier, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de tout ce chaos que nous voyons au verset 2 de la Genèse. Eh bien, le Saint-Esprit planerait aussi sur Marie. Alors, à quel signe général peut-on reconnaître si quelqu'un parle par l'Esprit de Dieu? Qu'a répondu le groupe 2? Oui.
Donc, personne ne peut parler tout travers quand il concerne les...
D'accord. Et dans les autres groupes, c'était un peu la même chose? Oui. Alors, ce qu'il nous faut bien comprendre, n'est-ce pas, c'est que ceux qui maudissent le Seigneur Jésus, ou ceux qui ne l'aiment pas, ils sont sous quelle influence? Sous l'influence de Satan, du mauvais, du méchant. Moi, personnellement, j'ai dû comprendre l'état de mon mauvais cœur, non pas parce que j'avais tué, volé, commis adultère et tout cela. Il y a 60 ans que le Seigneur m'a convaincu. Il y a 60 ans maintenant, cette année, que j'appartiens au Seigneur. Mais enfant de chrétien, élevé d'une façon très stricte par des parents pieux, bien, évidemment, on est gardé, et j'avais été gardé, de bien des choses, de bien des péchés grossiers, de tout ce que vous voulez. On aurait pu dire que j'étais un petit saint, mais pourtant, ce n'était pas vrai. Et quand c'est l'esprit qui m'a convaincu, j'ai compris que mon péché, c'était que je n'aimais pas Dieu. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. C'était que Dieu n'avait pas la première place dans ma vie. Oh, je voulais servir Dieu, j'avais des plans pour Dieu. Mais servir Dieu, je n'avais pas compris ce que Marie a dû comprendre quand elle s'est écriée, « Je vais faire quelque chose pour toi, non ?» Qu'il me soit fait selon ta parole. Dispose de moi, fais de moi ce que tu voudras. Moi, je venais avec mes plans au Seigneur, puis je lui disais, réalise-les. Je pensais que c'était bien. Puis Dieu m'a fait connaître qu'il avait un plan, lui, pour moi. Et que ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais. Moi, je voulais être médecin, il m'envoie à l'hôpital. Ça avait l'air de correspondre. Et seulement, il m'avait réservé une femme médecin. C'est autre chose. C'est autre chose. Ça, ce sont ses voies insondables. Mais c'était pour plus tard. Mais c'est une chose qui est dure à apprendre. On a des plans, on vient avec nos plans, puis voilà que Dieu nous dit, non, mais moi, mon petit, j'en ai pour toi des plans. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Tu désires me servir? Laisse-toi faire d'abord, je vais te préparer, moi. Et quelle est ton école? Et je dirais la meilleure des écoles, c'est la souffrance. Quand vous voyez pendant des mois les gens mourir autour de vous, ce n'était pas des salles privées, hein, mais on était dans des grandes salles, et puis les mois passaient, et puis voilà. Assister à ces départs, on mettait simplement un paravent. Dans la nuit, vous savez, ça vous parle. J'étais au Seigneur, mais il me formait. Alors, je pense que vous avez bien compris, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dira Jésus est anathème, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par l'Esprit. Ça veut dire que, réellement, on reconnaît la Seigneurie du Christ. On lui abandonne notre vie. Tu es le Seigneur. Alors, on ne discute pas. On obéit. Vous savez, on a un grand exemple. Jésus a appris l'obéissance par quoi? Vous connaissez l'Écriture? Par les choses qu'il a souffertes. Et nous, nous voudrions éviter la souffrance. Or, c'est par la souffrance que le Seigneur nous éduque. Alors, on arrive maintenant au verset 4e. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors qu'est-ce que vous trouvez dans ce verset? La Trinité, hein. Mais est-ce qu'elle est divisée? Non. Parce que si les actions sont différentes, n'est-ce pas, c'est quand même Dieu qui opère tout en tous. Mais il y a diversité de dons. Mais ces dons viennent du même esprit qu'est l'esprit du Seigneur. Alors, quelle est l'origine, la question 3, des manifestations spirituelles, des ministères et des opérations divines? Qu'est-ce que vous avez marqué là, groupe 3?
C'est Dieu lui-même.
Dieu lui-même.
Et parce qu'il y a une volonté divine dans la distribution des dons.
Oui. Au fond, c'est la Trinité tout entière qui est unie dans ces manifestations diverses. On ne va pas séparer les dons de l'esprit. Mais si ces dons sont de l'esprit, ce ne sont pas donc des dons de la chair, vous l'avez bien compris. Et c'est ce que je voudrais souligner, les manifestations spirituelles sont des dons surnaturels. Et non pas des dons naturels sublimés. Parce que maintenant vous êtes convertis, vous aviez tel don, ben vous l'emploierez. Parce que je pourrais vous montrer à travers tout l'Ancien Testament que vous risquez d'aller à la faillite. Regardez Moïse. Est-ce qu'il a sauvé le peuple d'Israël par les dons qu'il avait? Et qui s'était développé aux grandes études qu'il avait faites. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il était sûr de lui, quand il était sûr de ses capacités, de sa force à 40 ans, et qu'il y est allé en pensant que son peuple comprendrait que c'était lui qui était choisi pour délivrer Israël, qu'est-ce qui est arrivé? Il a tué. C'est l'échec. Et ça, on doit l'apprendre quelquefois d'une façon cuisante. Et il est parti au désert, exilé pendant 40 ans. Donc, je souligne ici que les dons sont des dons surnaturels. Nous avons des dons naturels, c'est vrai. Mais il est dit que le naturel vient en premier, 1 Corinthiens 15. Et que le spirituel vient ensuite. Donc il y a une différence entre le naturel et le spirituel. Vous avez reçu des dons naturels et vous pouvez rendre grâce au Seigneur pour les dons naturels que vous avez. Mais quand il est question de l'œuvre de Dieu, du service divin, il faut un équipement surnaturel. Et pour cela, il faut le désirer. Avec quoi? Petitement? Qu'est-ce que vous avez lu à la fin? Avec ardeur. Alors nous continuons. Il y a donc diversité de dons. Il y a diversité de ministères, les ministères on les verra encore, spécialement dans Éphésiens, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, il n'y a pas de division dans l'œuvre de Dieu et dans sa volonté. Mais verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, jamais pour soi-même. On va rester biblique dans ce que nous enseignons. Mais est-ce qu'on a à cœur l'utilité commune? Vous savez, si on comprenait mieux cela, que pourraient être nos églises? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Je me disais, j'aurais dû prendre seulement ce sujet-là pour toute la fin de semaine. Mais là, je vous donne que des pistes de réflexion. Une parole de sagesse, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une sagesse qui vient du monde, qui vient des hommes, ou de notre nature? Il y a des hommes sages dans ce monde. Hein? Il y a des hommes sages. Mais une parole de sagesse, c'est en cherchant dans l'Ancien Testament que vous pourrez trouver des exemples d'hommes qui avaient une parole de sagesse. À qui pouvez-vous penser? Salomon, oui, au début, mais pas après. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Citez-moi alors cette parole de sagesse. Quand est-ce qu'il l'a manifestée en particulier? Oui, il y a bien eu la reine d'Éthiopie qui est venue pour le consulter au sujet de sa sagesse. Mais il avait eu une parole de sagesse extraordinaire au sujet des deux femmes et des enfants. Hein. C'est par une parole de sagesse qu'il a pu dire, n'est pas désigner la mère. Mais ça, c'est l'Esprit de Dieu en lui qui a fait cela. C'est pas la sagesse de Salomon. Mais vous pourriez prendre d'autres exemples. Joseph. L'explication qu'il donnait en prison des songes, il les donnait par une parole de sagesse. Alors n'essayez pas de trouver des livres sur l'explication des songes. Mais peut-être, si vous voulez l'explication des songes, priez. Demandez à Dieu de vous révéler par une parole de sagesse ce que veut dire ce songe. Et puis aussi, mettez de côté tous les songes qui viennent de votre estomac, parce que vous avez trop mangé. C'est pas alors, là, hein, vous avez manqué de sagesse. Et puis aussi de nos préoccupations. Alors on s'endort avec toutes ces préoccupations, et puis tout est brouillé, et on fait des rêves affreux. Mais une parole de sagesse, j'y crois encore, mais on ne recherche pas cela. On l'apprend, on pense qu'on l'apprend aux grandes écoles seulement. J'ai rien contre les grandes écoles. Mais la parole de sagesse, je crois qu'elle peut encore être donnée. Mais on préfère chercher le don des langues, c'est le plus petit qu'on fait le plus grand, vous comprenez? Mais avoir cette sagesse divine dans nos églises, qui en manque tant. Si on commençait à prier avec ardeur, Seigneur, donne-nous la manifestation d'une sagesse. Nos frères et nos sœurs auraient besoin qu'on leur dise à certains moments une parole de sagesse. Mais qui sera toujours conforme à quoi? À l'Écriture. Car qui a été le sage d'entre les sages? Qui est-ce qui avait la parole de sagesse par excellence? C'est Jésus. Et quelle est la vie que nous devons avoir? La vie de Jésus. Alors, si vous avez la vie de Jésus, vous pouvez aussi participer à sa sagesse. Moi, j'y crois. Est-ce que vous y croyez? Mais nous sommes pauvres, pauvres, pauvres. Nous sommes aveugles et nous sommes nus, alors que nous pourrions recevoir de la personne du Seigneur des choses merveilleuses. Puisqu'il est dit, nous avons tout pleinement en Christ. Puis nous cherchons toutes sortes de choses. Alors, parole de sagesse. Je ne vais pas élaborer là-dessus, mais c'est une piste de réflexion. Trouvez dans l'Ancien Testament des exemples, parce que c'est ça qui nous fait aimer la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre de théorie. C'est un livre qui nous montre des hommes qui ont été saisis par l'Esprit et qui ont prononcer, oui, à un certain moment, des paroles de sagesse. J'ai dit Joseph, on pourrait dire aussi Daniel, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il a expliqué les songes? Il a reçu une parole de sagesse, mais ils se sont mis à trois, à quatre, pour recevoir la révélation. Parce que c'est une révélation. Ensuite, il y a une parole de connaissance. Cette connaissance, maintenant, je sais que beaucoup de théologiens, on l'applique aux docteurs. C'est eux qui ont la parole de connaissance. Mais ce n'est pas de cette connaissance-là qui vient des études. Certes, il faut l'avoir, cette connaissance. Mais c'est une connaissance surnaturelle. Et cette connaissance surnaturelle, je la vois spécialement en Jésus. Quand Pierre, Simon, est amené par André, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu es Simon, le fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Voilà une parole de connaissance. Tout à coup, Pierre se trouve devant quelqu'un qui sait ce qu'il est. Tu es Simon, tu es le fils de Jonas, c'est son passé. Il connaît son présent, son passé, tu seras, c'est fin, c'est son avenir. Voilà une vraie parole de connaissance. Et puis quand Nathanaël arrive en disant, peux-tu venir quelque chose de bon de Nazareth? Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. C'est une parole de connaissance, où me connais. Et quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Il lui dit, voilà un vrai Israélite en qui il n'y a pas trop. D'où me connais-tu? C'est quelque chose de merveilleux, mais vous devriez approfondir cela. Et trouver aussi dans l'Ancien Testament ces hommes qui ont eu des paroles de connaissance. Élisée, par exemple, qui dit à Géasi, menteur, n'est-ce pas, qui a couru après le char de Naaman le Syrien pour lui demander de l'argent. Et Élisée voit Géasi revenir, puis lui dit, d'où viens-tu? Tu nulle part. Menteur. Mais il n'y a pas dit menteur. Est-ce que mon esprit ne t'a pas vu? Comprenez-vous? Ça, c'est une parole de connaissance. Et alors, vous seriez émerveillé de voir les possibilités que le Seigneur peut vous donner, non pas pour que vous puissiez vous glorifier, mais pour que vous sachiez quelle est cette puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas au fond du ciel. Vous ne devez pas faire de nouvelles réunions d'attente pour qu'il descende. Il est dans l'Église. Il est dans les croyants. Mais il est attristé, il est contristé, il est éteint. On est un esprit. Mais il ne demanderait qu'à se manifester, et c'est ce que je lui demande, parce que nous avons besoin d'armes spirituelles pour communiquer des choses spirituelles. Nous en avons besoin, alors nous devrions désirer ces choses avec ardeur. L'apôtre Pierre aussi a eu une parole de connaissance. À quel moment? Avec Ananias, c'est une parole de connaissance qu'il a. Ce n'est pas à moi que tu as menti, c'est au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est actif et lui donne une parole de connaissance. Et c'est pas seulement pour l'Église primitive. On en a encore besoin de cela. Ça, ce sont les dons les meilleurs qui sont en premier lieu cités. Ensuite, il est parlé de la foi par le même esprit. La foi, mais ça, c'est pas la foi qui sauve, mais c'est cette foi qui est donnée à certains en vue de l'utilité. Par exemple, la foi de Georges Müller, il a eu ce don de foi. Il a cru que Dieu pouvait lui répondre. Il a fondé ses orphelinats à un moment où on avait besoin d'orphelinats. Parce qu'il n'y avait pas encore l'État pour s'occuper de tout cela. Et Dieu lui a répondu d'une façon merveilleuse. Et là où on annonce l'évangile, dans les champs missionnaires, tout cela peut être manifesté parce qu'on en a besoin, il n'y a rien. Et puis, à un autre, le don de guérison. Alors évidemment, maintenant, on exploite cela. Mais je crois qu'il y a des dons de guérison. Mais quand j'entends des gens, je vous l'ai déjà dit, qui me disent, ben pour savoir si j'ai le don de guérison, je m'essaye. Alors on essaye d'imposer les mains. On fait des réunions de guérison divine. Comme tout le monde est malade, comme tout le monde a son cancer. Quand on vous dit dans une réunion que vous allez sentir une certaine chaleur de tel côté, ben vous la sentez cette chaleur. On manipule les foules, mais c'est pas parce qu'il y a manipulation, c'est pas parce qu'il y a détérioration de ces choses sacrées qu'on ne va pas y croire. Je crois qu'il y a des dons de guérison, mais je n'irai pas chez une guérisseuse ou un guérisseur. Je sais que le Seigneur peut me répondre, mais qu'il faut employer quelqu'un, mais qui a le don, mais qui ne s'en vantera pas. Mais c'est toujours le même esprit, un autre, de pouvoir opérer des miracles. Mais on ne va pas chercher des miracles, mais si on se trouve dans une situation inextricable, je crois que Dieu est capable de faire un miracle. Du reste, pourquoi est-ce qu'il y a tant de choses qui ne vont pas? C'est à cause du péché. Mais avant, il n'en était pas ainsi. Le miracle, c'est simplement le rétablissement de ce qui devrait exister. Comprenez-vous? Alors le Seigneur peut faire ça, mais on n'exploite pas ses dons. Et on les sert non pas pour soi-même, mais en vue de l'utilité commune. Un autre, la prophétie. Alors on a déjà dit, et on y reviendra, alors je passe là-dessus. La prophétie, ce que c'est pas simplement annoncer l'avenir, mais c'est être en contact avec Dieu pour pouvoir apporter, non pas une révélation nouvelle, mais une parole qui, selon la définition du chapitre 14 que nous allons voir, n'est-ce pas, qui édifie, qui exhorte, et puis qui console, mais pas ce qui est déjà écrit. Mais on éprouve que celui qui dit cette parole, c'est une parole qui vient du cœur de Dieu. Et cette parole, 50 ans après, on vous la cite encore. Vous nous aviez dit telle parole à telle époque, puis on s'en souvient plus, nous, mais la personne s'en souvient parce qu'elle l'a reçue, non pas d'un homme, mais de Dieu. Mais ce n'était pas une parole inventée par l'homme, c'était une parole qui lui avait été rappelée par l'Esprit de Dieu et qui venait de l'Écriture sainte. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et les paroles que je vous dis, disait Jésus, elles sont esprit et vie. Elles ne nous laissent pas intactes, mais elles nous pénètrent, elles nous possèdent, elles nous vivifient, même aussi physiquement. À un autre, le discernement des esprits. Bien, vous savez, ce don-là, on devrait le demander. Parce qu'aujourd'hui, hein, ça manque. Les gens croient n'importe quoi. Et on les embarque. Et puis, avec tout cela, en parlant des dons spirituels, qu'est-ce qu'on amène? Et ça, c'était une question. Dans le corps, quatrième, dans le corps de Christ, la diversité des dons vise-t-elle à promouvoir l'unité ou la division? Qu'est-ce qu'on amène en parlant des dons? La division, hein? En parlant des dons comme on en parle. Alors qu'on devrait amener l'unité. Tous ces dons ensemble, nous n'allons pas nous jalouser, vous êtes des dons pour moi. Je dois me réjouir si vous avez des dons même que je ne possède pas. Si vraiment vous êtes du corps de Christ et que je suis du corps de Christ, j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. Alors, justement, on ne s'isole plus, on est dans le corps et on s'aide les uns les autres. C'est cela qui est merveilleux. Puis alors, il y a la diversité des langues. Eh bien, vous savez qu'il y a des mouvements qui ne parlent que de ça, et que si vous n'avez pas le don des langues, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est dit?
Non.
Pas du tout. Et puis alors, si même il y avait une langue, et s'il y a une langue vraie, qu'est-ce qu'il doit y avoir? L'interprétation de cette langue. Je veux bien que... C'est un des arguments que l'on donne contre. Mais vous savez, il ne faut pas toujours être anti-ceci, anti-cela. Je ne veux pas être anti-quoi que ce soit. Mais je veux me laisser former par la parole de Dieu. Il est possible que Dieu vous donne le don des langues. Mais pour quelle raison? Pour vous édifier vous-même. Hein? Ce serait déjà pas mal que vous n'ayez plus besoin de tout le temps aller chez le pasteur. Si vous pouviez vous édifier vous-même. Et si c'est le don des langues qui vous le donne, cette édification. Mais, prenez-le alors pour vous-même, si ça vous détend. N'est-ce pas? Mais si vous ne comprenez pas ce que vous avez dit, ce n'est pas une grande édification. Alors il vous faudrait le don d'interprétation. Et évidemment, il n'est pas dit le don de traduction. Mais d'interprétation. C'est pourquoi quand il y a une vraie interprétation, ça n'a pas toujours la même longueur que la langue qui a été donnée. Comprenez-vous? Parce que c'est seulement une interprétation. C'est le sens de ce qui a été dit qui vous est communiqué. C'est pas une traduction de mot à mot. Il faut faire attention à cela. Mais enfin, est-ce que c'est cela que nous devons rechercher d'abord? C'est le dernier des dons. Mais si on l'a, si on l'avait, eh bien, il faudrait l'interprétation des dons. Mais cette glossolalie, comme on l'appelle, eh bien, elle est partout, elle est dans les autres religions. C'est pourquoi vous devez faire attention. C'est pas simplement l'Esprit de Dieu. Elle peut être dans, il y en a chez les bouddhistes, il y en a, c'est des manifestations qui se trouvent partout. Et non pas simplement dans des assemblées dites de Dieu. Et puis surtout, je ne pense pas que c'est là le signe qu'on a le Saint-Esprit. Le signe qu'on a réellement le Saint-Esprit, ce n'est pas les manifestations d'esprit qui nous les donnent, c'est le fruit de l'esprit. Et il vous faut faire une différence entre ce qui est appelé le fruit de l'esprit, que vous trouvez dans Galates, chapitre 5, verset 22, qui est l'ensemble de toutes les grâces. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la douceur, la fidélité, et la maîtrise de soi. Eh bien, ça, c'est la réalité de la présence du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est cela. Et puis, alors, il y a les manifestations. Alors, mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses en distribuant à chacun en particulier comme chacun veut, non comme il veut. Alors, soumettons-nous et le Seigneur ne nous donnera pas quelque chose dont nous n'avons pas besoin. Alors, cherchons réellement ce dont nous avons besoin. Mais croyons qu'il y a des ressources, qu'il y a des réserves. Il est dit, saisis la vie éternelle. La vie éternelle est là, oui, mais saisis la vie de la vie éternelle. Et alors, vous avez cette image-là. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous avez remarqué cela? Le Christ total, maintenant, c'est la tête et le corps. les membres du corps. Donc vous faites partie du Christ, n'est-ce pas? Alors, tous les membres sont dirigés par quoi? Par la tête. C'est pas le bras droit qui commande au bras gauche. Le corps de Christ, c'est la tête et les membres. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Quand est-ce que cela s'est produit? Historiquement, quand est-ce que la promesse du Père s'est accomplie et que l'Église a été fondée comme corps, j'entends comme corps, à la Pentecôte? C'est un événement historique, n'est-ce pas? Alors, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, est-ce que le don du Saint-Esprit est pour une élite seulement? Non, c'est clair que c'est pour tous. Tous ceux qui croient, tous ceux qui ont reçu l'Esprit, eh bien, doivent être remplis de l'Esprit. Mais il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit qui a eu lieu et qui a lieu à la réception de l'Évangile et la plénitude du Saint-Esprit, qui n'est pas quelque chose à rechercher à côté de Christ, mais c'est laisser le Christ nous remplir. Toute la plénitude, elle est en qui? En Jésus. Alors, si vous avez Jésus, qu'est-ce que vous avez en lui? La plénitude. Mais donnez-lui la place. Laissez-le s'installer. N'essayez pas de vouloir avoir des espèces de bénédictions sensibles, entre autres le don des langues. Alors quand vous aurez le don des langues, maintenant vous savez que vous avez le Saint-Esprit. Vous irez au quatrième plancher de certains hôpitaux. Si vous vous lancez dans cette recherche, je ne sais pas si c'est toujours le quatrième plancher, mais... on en devient malade, parce qu'on veut absolument quelque chose de sensible, puis on se détraque. Puis alors on fait des sons de quoi avec, non parlant langue. C'est pas ça qui compte. Alors, laissons-nous former et corriger par la parole de Dieu. Donc, nous pouvons répondre, dans le corps de Christ, la diversité des dons vise à promouvoir l'unité ou la division, c'est l'unité. Dans quel but les dons sont-ils donnés et à qui sont-ils réservés? Aux croyants et qui désirent servir le Seigneur. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si le corps tout entier était œil, où serait l'ouïe? S'il était ouïe, où serait l'odorat? Ça, c'est des choses très faciles à comprendre. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme qu'il a voulu. Dieu, hein. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Mais, bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, on comprend tout cela. Ainsi, nos membres, les moins décents, reçoivent plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent. C'est vrai ou c'est faux? Et c'est vrai. Et c'est cela que nous devons réaliser. C'est ça la vraie communion fraternelle. J'apprends que tu es dans la peine, je suis dans la cette peine, je souffre avec ça, je ne te juge pas, je ne dis pas pourquoi cette personne souffre, mais c'est ma souffrance. Alors on enlève le faux jugement et on se trouve proche de ceux qui souffrent. Plus cet esprit de jugement, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Quand j'apprends que vous avez une bonne nouvelle, qu'est-ce que ça doit me faire? Ça doit me réjouir, même si moi je suis dans la peine. J'ai au moins quelque chose qui me réjouit. Quelqu'un qui est heureux. Dans ce moment-là, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous voyez que vous avez une part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, ça ce sont les ministères, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, donc on ne peut pas l'enlever aussi, même si on peut penser qu'il y a des dons qui passent, mais nous verrons plus loin que quand on n'aura plus besoin de tous ces dons, c'est à quel moment? Quand ce qui est parfait sera venu. Mais jusque-là, moi je ne me permettrai pas de dire que tout est fini. Il y a eu, évidemment, dans l'Église primitive, pour établir la parole, une manifestation tout à fait extraordinaire que l'on peut encore voir dans certaines missions parmi les païens. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue. Voilà qui est simple, hein, pour dire que non le Saint-Esprit que ceux qui parlent en langue. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a ici? Tous ne parlent pas en langue. Ça ne veut pas dire parce que Paul dit qu'il parle en langue que tous doivent parler en langue. Tous interprètent-ils? Alors, verset 31, et c'est là la grande leçon, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie plus excellente. Cette voie plus excellente, on l'a réservée pour ce soir. L'amour, oui. La voie plus excellente. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il y a une voie plus excellente, qu'on n'en a pas besoin de ces dons-là. Je vais vous laisser aller, parce que la sœur a dit que vous pouviez aller même un peu avant midi pour le dîner. Et nous reprendrons cet après-midi à 2h, mais nous voulons prier. Dieu notre Père, nous voulons ensemble te demander que nous n'étudions pas pour étudier, mais pour mieux servir, pour mieux être à ta disposition, et surtout que nous croyons que tu as mis en réserve pour chacun de nous, si nous y aspirons, les dons les meilleurs. Et tu sais ce qui peut être le meilleur pour nous, pour que nous soyons capables de faire dans ce monde ta volonté. Non pas une volonté qui nous serait pénible, mais une volonté que l'on reconnaîtrait comme étant bonne, agréable et parfaite.